10h59, vous écoutez Trudeau Landry au 93 25 226 si vous voulez nous écrire, c'est le texto.
Bon, ben je m'en vais, Joe. Je m'en vais, il est 11h, je m'en vais. Les Bruins commencent dans quelques minutes leur match. Je m'en vais. Non, c'est pas vrai.
Et d'ailleurs, je sais, il y a des gens qui écrivaient qui aiment ça nous regarder en studio. Ils trouvent qu'on jase beaucoup pendant les pauses. Non, on se repose pas pendant les pauses.
Non, c'est du bitchage. On refait la programmation de la radio de Québec au complet. On bitch à gauche et à droite. C'est comme ça que ça se passe pendant les pauses.
On a souvent dit que les meilleurs shows de radio, dans le fond, seraient ceux qui seraient diffusés si on entendait ce qui se dit dans les pauses.
Mais je ne sais pas si les gens triperaient tant que ça, parce que c'est beaucoup de l'inside radio. Hein, un tel est un
signe. Les gens aiment ça, par exemple.
Il s'est passé telle affaire. Ouais, peut-être.
Les gens aiment ça, l'inside. Quand ils nous rencontrent, souvent, ils disent en parlant, il y a un tel.
Ça manque jamais d'histoire en coulisses à Radio de Québec.
Non, absolument. Puis on se paye la tête. Parce que juste vous dire que si vous nous regardez sur le Facebook Live, sur la page du FM 93, et que vous voyez pendant les segments qu'on regarde les télés, puis on regarde pas l'information, là.
Puis est-ce que je pourrais m'excuser auprès de tes téléspectatrices, les madames qui écoutaient la joute? Moi, je t'appelle Joe, là, parce qu'on t'a connu de même à Radio de Québec.
Norm MacMillan m'appelle Joe.
Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis je sais qu'il y en a que ça surprend, ceux qui t'ont connu à la joute.
Il y a France sur Twitter qui vient d'écrire, on dit bonjour Joe, comme il semblerait que ce soit votre nouveau prénom, parce que les gens qui m'écoutaient à Radio de Québec, pas mal plus Joe Trudeau que Jonathan Trudeau. Ça, d'ailleurs, quand je rencontre du monde, c'est de même que je sais. S'il m'écoutait à la télé, s'il me disait dans le journal,
ça vient, c'est
quand
ça.
C'est Joe Trudeau, on le sait que ça vient, on sait que ça vient de la radio. donc, j'ai 25-2-2-6, vous avez des réactions nouvelles qui étaient attendues, pas nécessairement surprenantes dans la politique américaine. C'est Joe Biden qui a finalement fait connaître son choix pour sa colistière qui sera candidate au poste de vice-présidente des États-Unis. C'est Kamala Harris qui a été désignée par le candidat démocrate. Et on en parle avec notre collègue, le chroniqueur Raphaël Jacob. Salut Raphaël!
Salut Joe!
Salut Raph! Raphaël, écoute, as-tu été surpris? Parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il y avait des suppositions, il y avait des noms qui refaisaient surface, des nouveaux noms qui apparaissaient, mais il y avait toujours Kamala Harris qui, pour certains, semblait être le choix tout désigné. D'autres disaient, ouais, mais pour des choix stratégiques, même géographiques, c'est pas nécessairement le meilleur choix. En bout de compte, en bout de piste, as-tu été surpris de la désignation de Kamala Harris ou non?
J'ai pas été surpris parce que ça demeurait, je pense, du début à la fin de ce processus-là et de loin le choix le plus logique. Donc, tu sais, peut-être commencer, messieurs, en déboulonnant certains mythes là autour des sélections vice-présidentielles, parce que à chaque 4 ans, vous connaissez ça, vous suivez ça d'assez près pour le savoir, on entend presque toujours les mêmes refrains. Par exemple, le choix vice-présidentiel, ça sert à aller gagner l'état d'origine du candidat vice-présidentiel en question. Donc, tu vas choisir quelqu'un qui vient d'un État que tu essaies de gagner. Et donc, si on le regarde comme ça, le choix de Kamala Harris a pas, en fait, a absolument aucun sens parce qu'elle vient de la Californie.
Puis c'est déjà gagné.
Un État qui est acquis très largement aux démocrates. Or, justement, il n'y a pas juste ça comme considération quand on choisit un colistier ou, dans ce cas-ci, une colistière. Et dans le choix de Mme Harris, Joe Biden devait faire une chose d'abord et avant tout, c'est-à-dire éviter que ça crée des vagues. C'est une campagne qui est en avance depuis quand même longtemps. Et donc, on n'a pas besoin de faire un grand coup d'éclat, d'essayer de reconfigurer cette course-là. Tout ce dont on avait besoin, c'est quelqu'un qui, encore une fois, allait éviter de susciter de la colère ou de la grogne ou des controverses au sein d'une faction ou d'une autre du Parti démocrate. Et ça, largement, je vous dirais qu'elle était la mieux placée pour ça. Pourquoi? Parce que c'était le choix le plus consensuel au sein du parti. C'est quelqu'un qui vote avec l'aile la plus à gauche de son parti au Congrès, mais en même temps qui a un discours qui peut avoir l'air plus modéré. Souvent, elle n'a pas l'air d'une radicale. Évidemment, si c'est une femme, c'est une femme de couleur, et quand on connaît la base électorale du Parti démocrate, surtout dans le contexte actuel, elle cochait à peu près toutes les cases. Donc, c'est un choix qui est logique.
Mais déjà, Raphaël, tu parles du côté de gauche radicale. Déjà, Trump a commencé à l'attaquer là-dessus dans des pubs. On a commencé à voir ça, mais dresse-nous un peu son portrait. T'sais, on sait qu'elle a été procureure dans le coin de San Francisco. On sait qu'elle a même habité Montréal. Puis, je veux que tu nous dresses un peu son portrait parce que je pense qu'elle a des chances relativement raisonnables de peut-être devenir présidente pendant les prochaines 4 années. Parce que M. Biden, c'est plate à dire, mais il est âgé. Il fait pas l'unanimité non plus. Les chances sont là, je sais pas en quel pourcentage, mais elle pourrait devenir présidente pendant les 4 années du mandat de M. Biden, s'il est élu, évidemment. C'est qui, Mme Harris, exactement?
Ben, premièrement, Jérôme, si je peux me permettre, tu me demandes c'est quoi les chances mathématiques, je vais te les donner. Ouais. Je sais que ça va l'air peut-être très cru, c'est très actuaire comme calcul, mais ça se fait ce calcul-là. Mmh. N'importe qui peut le calculer avec les données officielles. Pour un homme moyen aux États-Unis, de l'âge de M. Biden, les chances de survie, je veux dire comme ça, là, qu'il soit encore parmi nous au-delà de 5 ans, sont d'à peu près 75 %. Okay. Autrement dit, il y a à peu près une chance sur 4 que, effectivement, si lui et Mme Harris sont élus dans 3 mois, elle accède d'ici la fin du prochain mandat à la présidence directement.
Puis ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, un président aussi âgé, Raphaël.
Exact. On n'a jamais vu ça. En fait, on a présentement, avec Donald Trump, le président qui avait été élu un premier mandat alors qu'il était le plus âgé. Et ça, c'était quand il avait 70 ans. Il y a 4 ans, quand Trump a été élu, il avait 70 ans. Là, si Biden gagne, il sera assermenté en janvier prochain à 78 ans. Ouais. Tu sais, il va dépasser, ou il dépasserait, je vais le mettre au conditionnel, là, le cap des 80 ans dans son premier mandat. Sinon, ça, on n'a jamais vu ça.
Ben, OK, justement, je continue dans cette traque-là, puis c'est peut-être le stratège politique en moi qui réfléchit, mais t'as l'enjeu, t'es un stratège démocrate, t'as l'enjeu de trouver une candidate qui pourrait être perçue comme étant une alternative dans l'éventualité où Biden devrait cesser son mandat ou ne pas demander un deuxième mandat. Par contre, il y a un risque à l'opposé, c'est que la candidate chaîne plus que ton candidat, si elle est tellement vue comme étant quelqu'un de présidentiable, ben elle peut faire ombrage au candidat qui, lui, ultimement, c'est lui qu'il faut qu'il se fasse élire là, au mois de novembre.
Sauf qu'en même temps, c'est-tu vraiment une mauvaise chose de faire ombrage à Joe Biden
c'est ça,
présentement? Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est un risque, je pense, qui est calculé. Puis, gardez aussi en tête ceci. On peut pas traiter cette nomination-là comme on le ferait en 2016 ou en 2012 ou à peu près à n'importe quel moment de l'histoire moderne parce qu'on n'a pas une campagne normale. Là, on en parle beaucoup, beaucoup de Kamala Harris parce qu'évidemment, ça fait même pas 24 heures qu'elle vient d'être sélectionnée. Mais en même temps, gardons en tête qu'on a, encore une fois, droit à une campagne dans laquelle il n'y a pas vraiment de grand rassemblement, il n'y a pas vraiment de grand discours, il y a très peu de réelles entrevues, de réelles interactions avec les électeurs. Et ça, c'est vrai pour les candidats présidentiels. Imaginez pour les candidats vice-présidentiels à quel point ils sont dans l'ombre. Donc, tu sais, à la limite, là, mettons qu'on pousse le raisonnement, Joe, et que on dit que oui, il y a le potentiel que Mme Harris prenne beaucoup, beaucoup de place. Même cette place-là va être relative dans le contexte actuel, là, tu sais.
Raphaël, je veux te lire un commentaire au 25226, puis je l'ai lu beaucoup depuis au cours des dernières heures. Okay? Quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie, Mme Harris a été démolie avec son bilan de procureur pendant les débats aux primaires démocrates. Très faible, un choix peureux fondé sur le sexe et la race, OK? Ça, c'est le texto qu'on a reçu. Évidemment, il y a eu les événements avec le décès de George Floyd aux États-Unis. Je pense qu'il y a eu un réveil, disons, forcé aux États-Unis sur les droits des Noirs et tout ça. Et je pense que le choix de Mme Harris tient compte de ça, du contexte depuis George Floyd, Raphaël. Et je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas comment toi tu vois ça, mais je pense qu'il fallait, oui, tenir compte de ça, de ce qui s'est passé, après qu'elle se soit retirée de la course aux primaires démocrates.
Oui, bien écoute, il y a beaucoup de stock là-dedans. Ouais. Premièrement, pour ce qui est, ne serait-ce que de considération électorale, effectivement, je pense que Joe Biden avait comme pas le choix de prendre non seulement une femme de couleur, parce que l'engagement solennel là, qu'il avait pris, c'était de choisir une femme. Il n'avait pas nécessairement dit que ce serait une femme de couleur, mais comme tu le dis toi-même, avec ce qui est survenu concernant la mort de George Floyd et tout ce qui suit depuis quoi, à peu près 2 mois et demi, la pression était immense. Et s'il avait nommé une femme caucasienne, une blanche, tu sais, tantôt, je parlais du fait que Harris évitait qu'il y ait des doléances majeures là, au sein du Parti démocrate. Mais justement, si on était allé avec une femme blanche, il y avait un risque, en bon français, de créer un backlash et de dire, hey, comment ça qu'à l'ère Black Lives Matter, à l'ère George Floyd, qu'on a choisi encore une fois une candidate blanche pour aller avec un candidat blanc, etc., etc. Donc, je pense qu'on avait comme pas le choix. Maintenant, pour revenir à un des points qui était mentionné dans le texto que tu viens de lire, je pense qu'il y a quelque chose qui mérite effectivement qu'on s'y arrête une seconde. C'est-à-dire que il y en a beaucoup, beaucoup depuis l'annonce de Kamala Harris hier qui ont noté qu'en débat, présidentielle l'an dernier, lorsqu'elle était elle-même candidate présidentielle dans les primaires démocrates, elle avait frappé très fort, notamment contre Joe Biden, justement. Mmh. Et c'est vrai, elle a été en fait spectaculaire dans son premier débat. Mais ce qui est également vrai, c'est qu'elle est devenue la toute première candidate majeure à quitter la course. Elle s'est même pas rendue en fait au premier scrutin, et en partie, c'était parce que effectivement, elle a connu d'autres débats où elle était carrément médiocre. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui a quand même été assez inégal dans sa candidature, dans sa campagne présidentielle. Fait que c'est pas un choix qui est parfait, c'est un choix qui est logique. Si j'avais conseillé Joe Biden, écoutez, j'aurais probablement conseillé effectivement d'aller de l'avant avec Mme Harris, considérant tout ce qu'on connaît présentement de la course et d'elle. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui est parfait. Il y a ça aussi à garder en tête, je pense.
Je veux qu'on parle de Joe Biden parce que on en a parlé en début de semaine sur le fait que les médias, je pense qu'on a la responsabilité d'être équilibrés dans l'analyse qu'on fait de la politique américaine.
Un peu comme à Fox News puis à CNN, sont tous les deux très équilibrés.
Oui, les deux.
Ils s'équilibrent, en fait.
Ouais, c'est ça, un avec l'autre.
Oui, quand tu zappes d'un à l'autre, c'est équilibré. Là,
c'est... Ben, attends, on peut-tu faire juste 30 secondes là-dessus juste pour vous dire comment c'est hallucinant. C'est hallucinant. Quand, et ça, c'est vrai à peu près n'importe quel soir de la semaine. Pour ceux qui ont CNN et Fox à la...
Ouais. Ah non, ça n'a pas lâché encore.
On a-tu une autre...
Pas deux en deux. On a-tu payé notre compte ou quoi? Là?
À la limite, qu'on le mette au téléphone. Mais tu sais, le temps qu'on remette Raphaël en ligne, c'est vrai que tu écoutes CNN et Fox. Tu sais, ça pourrait être écrit, là, paid for.
Ben, payé des deux
par,
côtés.
Payé, moi, approuvé par.
Moi, je zappe souvent les deux le soir. T'sais, j'écoute un peu Tucker Carlson, un peu Danny T. J'aime bien Chris Cuomo, moi, à CNN.
Moi aussi.
Anderson Cooper, je l'aime bien aussi. Mais tu sais, des deux côtés, c'est un peu en train de devenir deux caricatures. Caricature démocrate à CNN, caricature républicaine du côté de Fox News. On a retrouvé Raphaël. Ouais, c'est ça, on parlait de Fox News et de CNN.
Oui, et en fait, tu disais toi-même, Jérôme, là, tu passes d'un à l'autre, là, aux heures de grande écoute, tu as l'impression qu'on parle de deux pays différents.
Oui,
exact. C'est deux réalités complètement différentes. Et le journalisme, en guillemets, objectif, là, bonne chance de le trouver à ces heures de grande écoute-là. C'est tellement campé. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir des gens encore à ce jour, en 2020, qui prétendent que l'une ou l'autre de ces chaînes-là sont objectives. Il y a des journalistes objectifs, quelques-uns qui travaillent de part et d'autre dans ces chaînes-là, mais de façon générale, encore une fois, surtout aux heures de grande écoute, ce n'est pas du journalisme, du reportage objectif. Ce sont des shows hyper partisans, hyper idéologiques.
Donc, je disais, moi, je veux qu'on soit équilibré. C'est pas vrai que je vais économiser Donald Trump et les dérapes de ce président-là que je trouve absolument détestable. Mais en même temps, faut questionner aussi l'autre partie. Là, faut questionner les démocrates. Et là, il y en a qui disent que Joe Biden bénéficie d'une espèce de free ride. Il y a eu des questions de scandales, des histoires d'inconduite, harcèlement, des trucs comme ça. Mais il y a aussi l'attitude, ses capacités en général. Il y a des vidéos où on le voit, je comprends, il y a des montages qui sont faits, mais où on voit un homme qui est hésitant, qui semble être dans les vapes. Est-ce que tu considères qu'effectivement, il bénéficie d'un espèce de biais de façon générale, pas de Fox, mais de façon générale dans la presse américaine?
Pour moi, c'est clair. En même temps, est-ce que c'est simplement une question de biais partisan ou idéologique? Peut-être pas, dans la mesure où, on a, encore une fois, un contexte très particulier avec la pandémie, toutes les crises actuelles qu'on vit. Donc, c'est sûr qu'on va mettre moins de temps qu'on en mettrait normalement sur un des deux candidats présidentiels, surtout celui qui n'est pas le président sortant. Et justement, ça me conduit au deuxième point. Dans une campagne dans laquelle un des candidats, c'est Donald Trump, on s'entend que pour l'autre candidat, c'est assez difficile de faire parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. Donc, je pense qu'il y a ça aussi à garder en tête. Une fois que ça s'est dit, c'est d'une évidence que si on était justement dans un contexte différent, normalement, si le traitement médiatique était équitable, on parlerait beaucoup plus des failles, des problèmes, des controverses, dans certains cas, des scandales autour de Joe Biden, mais force est de reconnaître que c'est pas ce qu'on a depuis le début de cette course-là. Là.
Pour revenir à Kamala Harris, Raphaël, est-ce que tu penses que Donald Trump, on disait tantôt, les attaques ont déjà commencé envers elle, est-ce que tu penses qu'il devra se limiter? Est-ce qu'il y a un risque pour lui à trop l'attaquer parce qu'elle pourrait avoir un capital de sympathie à cause de sa couleur, de ses origines et tout ça? Ou au contraire, est-ce que tu penses que Trump a intérêt à l'attaquer pour réconforter sa base à lui? Tu sais, sa base à lui qui est très redneck, qui est très...
Qui
ne croit pas à ça de Black Lives Matter et ces affaires-là. Là.
Sais-tu quoi? Je vais donner la réponse la plus simple au monde et elle va s'appliquer à la fois à Kamala Harris et à Joe Biden. Oui. C'est-à-dire que ce que Donald Trump devrait faire présentement, c'est pas penser à comment on attaque un, comment on attaque l'autre, est-ce que je devrais l'attaquer, est-ce que je devrais pas l'attaquer. La priorité numéro un pour Trump depuis le début de cette course-là devrait être une chose, redorer son image à lui. Ouais. C'est une campagne de réélection, ça sert normalement de référendum aux États-Unis, les campagnes de réélection sur le président ouais. sortant. Et actuellement, c'est pas si compliqué que ça, là. Lorsque vous regardez les intentions de vote, elles sont presque identiques au taux d'approbation de Donald Trump. Autrement dit, vous prenez la moyenne nationale, il va chercher présentement à peu près en moyenne 42% des intentions de vote. Vous regardez son taux d'approbation, autrement dit, c'est quoi le pourcentage d'Américains qui approuvent de son travail comme président? C'est à peu près autour de 43. C'est ça son problème présentement. C'est pas Joe Biden, c'est pas Kamala Harris, c'est qu'on a actuellement, et ça depuis quand même un bon bout de temps, une majorité d'électeurs américains qui désapprouvent de son travail comme président. Mais, et tant que ça ne changera pas,
mais
s'il il devient, va être dans le pétrin.
Mais s'il devient plus présidentiel, plus modéré, plus... sa base va le délaisser.
Excuse-moi, je me permets de t'interrompre.
Ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas.
Est-ce qu'on pose encore cette question hypothétique-là, rendu en 2020, mais en août 2020?
À un moment donné, au début de son mandat, des fois, je trouvais qu'il avait l'air de vouloir devenir présidentiel un peu, mais ça, oui. ça durait jamais bien longtemps. Là.
Non, ouais. je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais en fait, j'irais même plus loin que ça. Pendant la campagne de 2016, il y a eu certains moments, notamment à la Convention républicaine, notamment lorsqu'il avait tenu une espèce de point de presse conjoint avec le président mexicain de l'époque, où il avait l'air présidentiel et où, effectivement, il avait l'air de vouloir appliquer pour la job de président des États-Unis, la vraie job. Mais comme tu le dis, ça dure jamais vraiment très longtemps. Donc, c'est des soubresauts. Fait, est-ce que ça se peut que ça revienne, justement, une espèce de soubresaut de la sorte? Oui, ça se peut. Quand maintenant, puis le 3 novembre, il y a des moments où on se dit « Aïe, il a l'air d'un vrai président des États-Unis. » Le problème, c'est pas ça. C'est que ça dure pas. Ouais. Ça dure pas. Et c'est que l'opinion publique, on en rit. Mais il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui, présentement, en rient plus, justement. Ils se disent « Ben écoutez, on le sait, c'est quoi le bonhomme. Là. On sait, c'est quoi le personnage. Et on ne changera pas d'opinion à son sujet parce que lui ne changera pas de comportement personnel. »
Alors voilà le ticket démocrate qui est enfin connu. On va avoir bien du plaisir à analyser ça avec toi d'ici à l'élection du mois de novembre. Merci Raphaël, on se reparle bientôt.
Merci.
Salut.
Merci. Il est 11h16 dans quelques secondes. Vous écoutez Trudeau-Landry FM 93. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook du 93. Parce que quand on le mentionne, tu vois le nombre de visiteurs
qui augmente.
Hein?
Ben,
on le voit augmenter. Là.
Comme je te dis, notre physique est très, très populaire sur Facebook. Hey, juste pour finir sur Trump. Là.
Oui.
Moi, dès que je critique Trump, je sais pas toi, là, mais je le critique de temps en temps sur Twitter puis, ou peu importe sur Facebook. Ben. Le maudit commentaire que je reçois tout le temps et que je reçois très souvent, c'est « Ouais, mais Trudeau, occupe-toi de Trudeau.
Ben » Non, mais c'est n'importe
On peut-tu critiquer les deux? Est-ce que les deux peuvent être mauvais en même temps? Moi, je pense que les deux sont mauvais en même temps. Là. Les deux sont à chacun leur façon, là, mais pas parce qu'on critique Trump qu'on critique pas Trudeau. On peut marcher de la gomme marchant en même temps. Là, y a moyen
Absolument,
de faire,
non,
là.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis ouais. le problème, c'est que les pro-Trump, que moi j'appelle les Trump lovers, sont devenus des gens absolument dogmatiques.
Oui.
Si vous reprochez à certains médias, par exemple, de ne pas être capable de reconnaître les bons coups que Donald Trump peut faire, moi, pour l'économie, je l'ai reconnu. Puis, tu sais, Donald Trump, il a la fâcheuse habitude de faire parler de lui pour les mauvaises raisons. C'est pas moi qui envoie promener les médias devant tout le monde puis qui fait qui l'échappe. C'est lui. Donc, c'est sûr qu'on met l'accent là-dessus. Je suis capable de reconnaître ses bons coups. À l'inverse, les Trump lovers, moi, je les appelle les lemmings. Tu sais, les lemmings, il y a des gens urbains qui disent que ces petits animaux-là vont tous... S'il y en a un qui se pitche en bas du fossé, là, ils vont tous suivre, ils vont tous se suicider en même temps. Vous êtes des lemmings, les pro-Trump, parce que vous êtes incapables d'une once d'objectivité envers Donald Trump. Tout ce qu'il fait est bon. Vous n'êtes pas capable de reconnaître que le gars, des fois, il échappe solide. C'est aussi pire que ce que vous reprochez à ceux qui sont des anti-Trump.
Mais ça, là-dessus, hier, tu me fais penser, Joe, notre collègue Sylvain Bouchard avait une maudite bonne conversation avec son équipe hier après-midi dans le retour là-dessus. Sur la différence entre opinion et fait, OK? Parce que tu sais, quand on critique Lucie Laurier ou on critique Trump, il y a des gens qui vont leur dire « Ouais, mais Lucie Laurier, elle doit son opinion. » Ouais, mais le problème, c'est que dans son opinion, elle déforme les faits. Puis Sylvain l'expliquait très, très bien hier. Il y a une énorme différence entre avoir une opinion basée sur des faits et avoir une opinion basée sur des faits qui sont erronés.
Ah oui.
Parce que l'opinion de Lucie Laurier est basée sur des faits erronés, notamment que les vaccins sont pas efficaces et que Arruda n'est pas un scientifique.
Et que Bill Gates a été implanté
voilà.
lui-même
donc,
la COVID-19.
Donc l'opinion ne vaut plus rien parce qu'on n'a pas les mêmes faits. Puis j'ai l'impression que souvent les partisans de Trump sont un peu dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que les faits sont déformés. Tu te rappelles de Kellyanne Conway qui avait parlé des...
Oui. Alternate facts.
Alternative facts, des faits alternatifs, donc d'une autre réalité. Et quand tu t'ostines avec quelqu'un qui se base sur des faits alternatifs, sur des faits qui sont erronés, il n'y a aucune chance de t'entendre avec. Il n'y a aucune chance. Si tu n'as pas les mêmes faits, tu pourras jamais t'entendre. Et les partisans de Trump sont beaucoup comme ça, même ici au Québec.
Et le problème, c'est plus tu te confortes dans ça, là, tu sais, que tu te défends par rapport aux faits alternatifs, que tu prends des positions là, qui font aucun sens, c'est que ça devient impossible de retourner de l'autre bord.
C'est
ça. Tu sais, et il y a un parallèle évident à faire avec la COVID. Là. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de pandémie, que c'est la 5G, les vaccins, Bill Gates. Un coup que tu t'es obstiné avec ta famille, avec tes amis, que tu as défendu corps et âme ce point-là, admettre que finalement c'était un peu débile, il y a quelque chose de très, 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 j'ai envie de dire, gênant, honteux, fait qu'ils font juste s'enfoncer encore plus. Et c'est la même chose avec les vraiment... Puis ceux qui ont une sympathie pour Donald Trump, sentez-vous pas visé, là. Encore là, vous avez droit à votre opinion. Moi, je parle de ceux qui sont incapables du moindre jugement critique envers le président américain. À un moment donné, tu t'es tellement enfermé là-dedans que tu peux pas faire autrement. Il y a pas d'autre issue. Faut-tu continuer.
Oui, exactement. Hey, Nico, pas Nico, mais Joe, Nico, justement, m'envoie une nouvelle selon la presse canadienne. Ça concerne la politique fédérale, là, puis je pense qu'on va aller en élection cet automne. Là, on en parlait un peu hier. Là. Et François Blanchette dit que le Bloc québécois va tenter de provoquer une élection en octobre. À moins que le premier ministre Justin Trudeau et que le ministre des Finances Bill Morneau ainsi que Cathy Telford,
sa chef de cabinet,
démissionne. Donc, c'est selon la presse canadienne, le Bloc québécois qui aurait l'intention donc de défaire le gouvernement. Si Trudeau démissionne pas, si Morneau démissionne pas, donc on s'entend qu'il va avoir... c'est sûr que le Bloc peut pas défaire le gouvernement à lui seul. Ça va prendre les conservateurs avec, mais je pense que les conservateurs ont l'intention avec le nouveau chef de défaire le gouvernement aussi.
Absolument. Puis le NPD qui n'aura aucun appétit pour aller en élection, mais je pense que le Parti conservateur avec un nouveau chef va avoir beaucoup de difficultés à ne pas se laisser tenter d'aller en élection. C'est effectivement l'orientation qui est choisie par le Bloc québécois. 11h21, on va faire une pause. Bougez pas, on revient dans quelques instants.